Paris veut être libre.
Dans la vieille cité française,
un mouvement insurrectionnel éclate.
La commune est réclame.
Vive la commune !
Et des millions de bonnes fois, quel est cet état social ? L'inégalité le ronge. L'insolidarité le tue. Des préjugés antisociaux les traînent dans leurs mains de fer. Les jouissances ne sont que pour le petit nombre qui les épuise dans ce qu'elles ont de plus raffiné. La masse, la grande masse, languit dans la misère et l'ignorance. Le salaire de l'ouvrier ne lui donne pas le nécessaire.
À qui la responsabilité? Sinon à ceux qui nous gouvernent. Ils nous ont conduits jusqu'au bord de l'abîme.
En avant pour la République, pour la commune et pour la liberté.
Place au peuple, place à la commune.
Aux armes!
Pour la seconde fois, la ligne était tracée bien nette. Si l'hôtel de ville n'avait guère défini la commune, la bataille, le bombardement, les fureurs versaillaises, les échecs des conciliateurs la montraient nettement aux yeux de tout Paris. Un camp de révoltés. Le 13 avril, sous la présidence de Courbet, Eugène Potier, dessinateur sur tissu, présente le rapport qui sera l'acte constitutif de la Fédération des artistes. Plus de 400 artistes étaient présents. A eu lieu dans le grand amphithéâtre de l'école de médecine la réunion d'artistes provoquée par M. Courbet avec l'autorisation de la commune. La salle était absolument pleine et tous les arts y étaient largement représentés. M. Potier donne avant tout lecture d'un rapport élaboré par une commission préparatoire. Ce document contenait des considérations vraiment élevées sur les besoins et les destinées de l'art contemporain. Confier aux artistes seuls la gestion de leurs intérêts. Les artistes de Paris adhérant au principe de la République communale se constituent en fédération. Ce ralliement de toutes les intelligences artistiques aura pour base la libre expansion de l'art, dégagée de toute tutelle gouvernementale et de tout privilège, l'égalité des droits entre tous les membres de la fédération, l'indépendance et la dignité de chaque artiste mise sous la sauvegarde de tous par la création d'un comité élu au suffrage universel des artistes. Ce comité fortifie les liens de solidarité et réalise l'unité. Le comité est composé de 47 membres représentant les diverses facultés, 16 peintres, 10 sculpteurs, 5 architectes, 6 graveurs et lithographes, 10 membres représentant l'art décoratif nommé improprement art industriel. Ce gouvernement du monde des arts par les artistes a pour mission la conservation des trésors du passé, la mise en œuvre et en lumière de tous les éléments du présent, la régénération de l'avenir par l'enseignement. Le comité repousse d'une manière absolue toute exhibition mercantile, tendant à substituer le nom de l'éditeur ou du fabricant à celui du véritable créateur. Il n'est pas décerné de récompense. Les travaux ordinaires commandés par la commune seront répartis entre les artistes que les suffrages de tous les exposants auront désignés. Les travaux extraordinaires sont donnés au concours. Par une décision du 4 avril, la commission exécutive de la commune convoque les artistes pour procéder à l'élection de leur commission fédérale. Cette commission est composée de 16 peintres, 10 sculpteurs, 5 architectes, 10 graveurs et lithographes et 10 représentants de l'art décoratif. Les peintres Bonvin, Corot, Courbet, Daumier, Feuillin-Perrin, Gautier, Hérault, Lançon, Manet, Millet et Pichiot, les architectes Bois-Loffis et Oudinot, les dessinateurs Gilles, Flaminck et Braquemont, les artistes industriels Fusier et Potier. Le comité fédéral des artistes désigne un bureau composé de Courbet, Dalou et Bois-Loffis, reconnu par la commune et qui siège à l'ex-ministère des Beaux-Arts rue de Rivoli. Courbet est élu par 274 voix sur 290 votants. le comité collabore avec Vaillant, délégué à la commission de l'enseignement, réorganise le musée du Louvre et met à l'abri certaines œuvres d'art menacées par les bombardements versaillais. Le 17 avril, Félix Pia écrit dans Le Vengeur un article concernant la destruction de la colonne Vendôme. La commune de Paris, considérant que la colonne de la place Vendôme est un monument de barbarie, un symbole de force brute et de fausse gloire, une affirmation du militarisme, une négation du droit international, une insulte permanente des vainqueurs ou vaincus, un attentat perpétuel à l'un des trois grands principes de la République française, la fraternité, décrète, article unique, la colonne de la place Vendôme sera démolie. La commune a pris les mesures nécessaires pour l'exécution de ce décret. C'est le génie militaire et ses justes qui est chargé d'abattre ce monument de la guerre. La démolition aura lieu solennellement en présence de la véritable armée du peuple, en armes, des bataillons de la garde nationale et des membres de la commune de Paris. C'est la déclaration de la paix universelle. Les élections complémentaires du 16 avril révélèrent l'effectif insurrectionnel. La mort, les élections doubles, les démissions avaient fait 31 sièges vacants. Les illusions du 26 mars avaient disparu. On votait maintenant sous les obus. Les journaux de la commune, les délégués des chambres syndicales eurent beau appeler les électeurs aux urnes, il n'en vint que 61 000. Les arrondissements des démissionnaires donnèrent 16 000 au lieu de 51 000 votants. Le rapporteur des élections du 16 avril proposait de valider toutes celles qui avaient réuni la majorité absolue. 26 voix contre 13 votèrent les conclusions du rapport. 20 élections seulement furent validées, ce qui était illogique. Il fallait valider tout le monde ou ne valider personne, car tel fut admis avec moins de 11 000 voix et tel resta dehors avec 2 500 voix. 4 étaient des journalistes. 6 des ouvriers, 11 envoyés par les réunions publiques, allèrent renforcer les romantiques. C'était l'heure plus que jamais de parler à la France. Le 6 mars, la commission exécutive, dans une adresse à la province, avait bien protesté contre les calomnies versaillaises disant que Paris combattait pour la France entière. Elle n'avait pas formulé de programme. Les protestations républicaines de M. Thiers, l'hostilité de la gauche, les décrets sans suite du Conseil déroutaient complètement la province. Il fallait au plus tôt la fixer. Le 19 avril, la commune s'adresse par une déclaration au peuple français. Dans le conflit douloureux et terrible qui impose une fois encore à Paris les horreurs du siège et du bombardement, il faut que Paris et le pays tout entier sachent quelle est la nature, la raison, le but de la révolution qui s'accomplit. Que demande Paris ? La reconnaissance et la consolidation de la République, seule forme de gouvernement compatible avec les droits du peuple et le développement régulier et libre de la société. L'autonomie absolue de la commune étendue à toutes les localités de la France et assurant à chacune l'intégralité de ses droits, à tout Français, le plein exercice de ses facultés, de ses aptitudes comme homme, citoyen et travailleur. Les droits inhérents à la commune sont le vote du budget communal, recettes et dépenses, la fixation et la répartition de l'impôt, la direction des services locaux, l'organisation de sa magistrature, de la police intérieure et de l'enseignement, l'administration des biens appartenant à la commune, le choix par élection ou le concours et le droit permanent de contrôle et de révocation des magistrats ou fonctionnaires communaux de tous ordres, la garantie absolue de la liberté individuelle, de la liberté de conscience et la liberté du travail, l'intervention permanente des citoyens dans les affaires communales par la libre manifestation de leurs idées, la libre défense de leurs intérêts, l'organisation de la défense urbaine et de la garde nationale qui élit ses chefs et veille seul au maintien de l'ordre dans la cité. Nos ennemis se trompent. ou trompent le pays quand ils accusent Paris de vouloir imposer sa volonté ou sa suprématie au reste de la nation et de prétendre à une dictature qui serait un véritable attentat contre l'indépendance et la souveraineté des autres communes. Ils se trompent ou trompent le pays quand ils accusent Paris de poursuivre la destruction de l'unité française constituée par la Révolution aux acclamations de nos pères accourues à la fête de la Fédération de tous les points de la vieille France. L'unité, telle qu'elle nous a été imposée jusqu'à ce jour par l'Empire, la monarchie et le parlementariste, n'est que la centralisation despotique, inintelligente, arbitraire ou onéreuse. L'unité politique, telle que la veut Paris, c'est l'association volontaire de toutes les initiatives locales, le concours spontané et libre de toutes les énergies individuelles en vue d'un but commun, le bien-être, la liberté et la sécurité de tous. C'est la fin du vieux monde gouvernemental et clérical, du militarisme, du fonctionnarisme, de l'exploitation, de l'agiotage, des monopoles, des privilèges auxquels le prolétariat doit son servage. La patrie, ses malheurs et ses désastres. Nous en appelons à la France. C'est à la France à désarmer Versailles par la manifestation solennelle de son irrésistible volonté. Appelez à bénéficier de nos conquêtes, qu'elle se déclare solidaire de nos efforts, qu'elle soit notre alliée dans ce combat qui ne peut finir que par le triomphe de l'idée communale ou par la ruine de Paris. Quant à nous, citoyens de Paris, nous avons la mission d'accomplir la révolution moderne la plus large et la plus féconde de toutes celles qui ont illuminé l'histoire. Nous avons le devoir de lutter et de vaincre.
Donc on a parlé du rôle des femmes dans la commune. Est-ce qu'on peut évoquer quelques exemples, quelques personnages marquants ?
Alors évidemment, quand on pense à la commune, on pense à Louise Michel, qu'on appelait la Vierge Rouge. Alors Louise Michel donc est une femme dans la force de l'âge hein, au moment de la Commune. Elle a 40 ans. Elle a une origine assez spéciale hein, puisque elle vient de Haute-Marne et c'est la fille naturelle d'un châtelain. Louise Michel donc arrive à Paris à la fin des années 1850. Donc elle passe toute la période du Second Empire à Paris. Et Louise Michel, c'est la figure du 18e arrondissement. Elle est institutrice à Montmartre. Elle a aussi ce site particulier que c'est donc à Montmartre, elle rencontre Clémenceau. Elle est amie avec Clémenceau. Elle envoie des poèmes aussi à Victor Hugo, donc elle a des liens avec Victor Hugo. Elle écrit dans les journaux d'opposition et elle est en rapport avec toutes les figures, les grandes figures de l'extrême gauche révolutionnaire à la fin du Second Empire, donc avec Jules Vallès, avec Varlin et avec les blanquistes, avec Raoul Rigaud et Théophile Ferré, donc, et la famille Ferré d'ailleurs. Alors, Louise Michel, on en garde un visage assez austère, toujours habillée de noir, une femme austère, énergique. Et d'ailleurs, ça va servir aussi à la propagande anticommunarde, hein, parce qu'on rappellera que finalement, cette femme est aussi inquiétante. Elle veut la place de l'homme. Elle n'a pas d'atout du point de vue de la séduction féminine. Et en même temps, on lui reconnaît une certaine impartialité, une certaine honnêteté. Donc, elle est un personnage tout à fait à part. Alors, Louise Michel est une figure du 18e. Elle fait partie, après la proclamation de la République, le 4 septembre, du comité républicain de vigilance des citoyennes du 18e arrondissement, qu'on appelle aussi le comité de vigilance des femmes de Montmartre. Donc, elle est dans les combats républicains, dans les combats de l'extrême-gauche révolutionnaire pendant le siège. Pendant le siège aussi, elle ouvre une cantine, sachant que les conditions du siège sont extrêmement difficiles. Elle ouvre une cantine à destination d'ailleurs essentiellement des élèves de son école, mais pas seulement. Elle a participé aussi aux journées insurrectionnelles qui ont eu lieu avant le 18 mars. En particulier la journée de janvier 1871 où elle était présente.
Du 22 janvier.
Voilà. Donc c'est une figure également du 18 mars. À Montmartre, puisqu'on sait que le 18 mars, donc, la reprise des canons a échoué à Montmartre, et c'est le début, en tout cas, officiel de la commune. Et puis, pendant la Commune, on la verra en différents lieux, on la verra même pratiquement sur tous les plans, à la fois dans les réflexions sur l'enseignement, à la fois dans le soin aux blessés, à la fois dans les clubs où elle prend la parole, et puis enfin dans les combats, puisqu'il y a de fréquentes représentations de Louise Michel habillée en garde nationale qui cherche à défendre Paris. Louise Michel sera déportée en Nouvelle-Calédonie, donc on sait que là, elle aura une vision tout à fait spécifique de la révolte des Kanaks au moment où les communards sont déportés en Nouvelle-Calédonie. Elle a une certaine empathie avec cette révolte des Kanaks, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait représentative de l'ensemble des communards déportés en Nouvelle-Calédonie, qui eux estiment... qui sont assez loin pour l'ensemble, hein, je parle pour l'ensemble de cette révolte des Kanaks. Louise Michel donc rentrera à Paris assez tard d'ailleurs, parce qu'elle rentre parmi les dernières. Donc, et lorsqu'elle arrive à la gare, elle est accueillie par Rochefort, donc Rochefort qu'elle a connu avant la Commune, mais qui était déporté avec elle en Nouvelle-Calédonie, du moins jusqu'en 1874. Au moment où Rochefort s'évade de Nouvelle-Calédonie. Et puis, elle est accueillie aussi par Clémenceau. Donc, on voit bien ici le personnage tout à fait particulier qu'est Louise Michel. Et puis ensuite, elle continuera son itinéraire de militante, et en particulier de militante anarchiste.
Bâtir des cités idéales, détruis d'abord les monstruosités. Gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Empare-toi maintenant de l'usine, du capital, ne sois plus serviteur. Reprends l'outil et reprends la machine, tout est à tous, rien n'est à l'exploiteur. Sans préjugés, suis les lois de nature et ne produis que par nécessité. Travail facile ou besogne très dure n'ont de valeur qu'en leur utilité. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. On rêve amour au-delà des frontières, on rêve amour aussi de ton côté. On rêve amour dans les nations entières, l'erreur fait place à la réalité. Oui, la patrie est une baliverne, un sentiment doublé de lâcheté. Ne deviens pas de la viande à caserne, je ne conscris, mieux te vaut déserter. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher.
Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Quand ta pensée invoque ta confiance, avec la science il faut te concilier. C'est le savoir qui forge la conscience, l'être ignorant est un irrégulier. Si l'énergie indique un caractère, la discussion en dit la qualité. Entends, réponds, mais ne sois pas sectaire, ton avenir est dans la vérité. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Place pour tous au banquet de la vie, notre appétit seul peut se limiter. Que pour chacun la table soit servie, le ventre plein, l'homme peut discuter. Que la nitro comme la dynamite soit la pendant qu'on discute raison. S'il est besoin, renversons la marmite, mais de nos mots a-t-on la guérison. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher.
La délégation du travail et de l'échange, exclusivement composée de socialistes révolutionnaires, s'était donnée pour objet l'étude de toutes les réformes à introduire, soit dans les services publics de la commune, soit dans les rapports des travailleurs, hommes et femmes, avec leurs patrons. La révision du code de commerce, des tarifs douaniers, la transformation de tous les impôts directs et indirects, l'établissement d'une statistique du travail. Elle demandait aux citoyens les éléments de tous les décrets qu'elle proposerait à la commune. Le délégué, Léo Frankel, se fit assister par une commission d'initiative composée de travailleurs. Sur la demande de beaucoup d'ouvriers boulangers, la délégation fit supprimer le travail de nuit, mesure d'hygiène autant que de morale. Elle prépara un projet de liquidation du mont-de-piété, un décret concernant les retenues sur les salaires et appuya le décret relatif aux ateliers fermés par leurs propriétaires. 16 avril, c'est un décret historique pour les travailleurs de tous les pays qu'a pris aujourd'hui la commune. Le décret prévoit d'abord un inventaire des ateliers abandonnés, privé d'ouvrage par la fuite des patrons à Versailles, afin d'établir un plan de remise en marche de ces ateliers au plus vite. La commune l'a bien compris. Les travailleurs n'ont pas besoin de patrons pour produire. Les ateliers seront confiés aux travailleurs qui y travaillaient, encouragés à constituer des coopératives ouvrières de production. Dans ces structures sans hiérarchie, les travailleurs partagent équitablement les profits, les contremaîtres sont élus et révocables par les salariés. Les amendes interdites et la journée de travail limitée à 10 heures. Un projet de constitution de ces sociétés ouvrières est mis à l'étude, ainsi que la nomination d'un jury qui devra décider de l'indemnisation payée aux patrons à leur retour contre la cession définitive des ateliers. Il est bien entendu qu'à la liquidation du mont-de-piété doit succéder une organisation sociale qui donne aux travailleurs des garanties réelles de secours et d'appui en cas de chômage. L'établissement de la commune commande de nouvelles institutions réparatrices qui mettent le travailleur à l'abri de l'exploitation du capital. Le décret qui abolissait les retenues sur les appointements et les salaires mettait fin à une des plus criantes iniquités du régime capitaliste. Ces amendes étant infligée souvent sous le plus futile prétexte par le patron lui-même, qui se trouve ainsi juge et parti. Le décret relatif aux ateliers abandonnés restituait à la masse dépossédée la propriété de son travail. Une commission d'enquête nommée par les chambres syndicales devait dresser la statistique et l'inventaire des ateliers abandonnés qui allaient revenir aux mains des travailleurs.
Donc Louise Michel s'engage début du mois d'avril dans, je crois, le 61e bataillon de la garde nationale. Donc elle participe au combat et c'est pas la seule femme de la commune qui participe au combat aux côtés des gardes nationaux.
Non, pas du tout. Il y en a plusieurs. Alors moi, je voudrais parler d'une femme qui est moins connue, qui s'appelle Victorine Brochet. Victorine Brochet va s'engager dans la garde nationale et au fond, lorsque l'on regarde ses mémoires, donc ses souvenirs d'une morte vivante, ce qu'elle dit sur la commune, ce sont essentiellement ses combats dans le cadre de la garde nationale. Donc elle évoque de façon très crue d'ailleurs les morts et la mort. Elle évoque la mort des blessés de ses compagnons de la garde nationale. Pendant la semaine sanglante, elle se cachera, d'abord elle luttera sur les barricades, elle luttera jusqu'au dernier moment, et puis quand tout sera fini, elle se cachera avec quelques compagnons de son bataillon, et elle raconte de façon tout à fait émouvante comment cachés, donc ils étaient même pas une dizaine, hein, cachés dans des baraquements à Montmartre. Donc elle a vu d'une fenêtre le propriétaire de ces baraquements, qui n'était au courant de rien, se faire massacrer par les Versaillais. Elle fuit par une fenêtre, emportant d'ailleurs le drapeau de sa légion. Et elle raconte aussi là après, de façon émouvante, comment elle est cachée, recueillie pour échapper aux Versaillais. Ensuite, donc, elle parviendra à partir en exil. Donc, des femmes, il y en a de diverses origines sociales, au fond. Et il y a des travailleuses manuelles, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler de nos jours des intellectuels. Alors, dans les travailleuses manuelles, il y a Nathalie Lemel, hein, dont on a déjà parlé, qui est relieuse, internationaliste, et qui d'ailleurs, après l'amnistie, sera de nouveau employée un moment à l'intransigeant, au journal L'Intransigeant de Rochefort, encore comme relieuse. À côté d'elle, puisqu'on a parlé des créatrices ou des fondatrices des deux principaux noms de l'Union des femmes pour la défense de Paris et des soins aux blessés, on a parlé d'Elisabeth Dimitrieff. Or, Elisabeth Dimitrieff, elle, est une jeune aristocrate russe qui a lutté contre le régime tsariste, qui a fait partie de la section russe de l'Internationale en Suisse, puis a été déléguée à Londres. C'est lié à Marx, a été envoyée par Marx à Paris en mars 1871. Et après la Commune, donc elle parviendra à fuir en Russie. Elle épousera un condamné à la déportation en Sibérie, donc un Russe, et elle mourra en Sibérie en 1910. Ou bien encore Paul Minck. Paul Minck, elle aussi, est issue donc d'une famille et d'un milieu qui vient de l'étranger, puisque c'est la fille d'un comte polonais. Comte polonais qui s'était réfugié à Paris après 1830, au moment de la monarchie de Juillet, donc comme beaucoup de Polonais d'ailleurs, après 1831. On peut penser aussi à André Léo, hein, André Léo qui est une féministe aussi convaincue, qui fait partie de ces milieux de l'opposition à la fin du Second Empire et qui sera par ailleurs liée de façon très importante à Benoît Malon. Alors, André Léo, c'est la veuve d'un disciple de Pierre Leroux. Donc, Pierre Leroux étant faisant partie de ce qu'on appelle les premiers socialistes français dans la première moitié du XIXe siècle. Et André Léo est à la fois une romancière, une féministe. Elle est liée à ces milieux des femmes et du mouvement social de la fin du Second Empire. Et donc, des figures très diverses, finalement, mais qui se retrouvent soit dans la volonté du combat social et ou du combat féministe. Je pense aussi par exemple à Anna Jaclar, qui elle aussi est une Russe, hein, c'est la fille d'un général russe et qui par ailleurs est la compagne de Victor Jaclar, qui est un blanquiste. Tous les deux participeront donc en couple à la Commune avec diverses fonctions.
Voilà, donc beaucoup de femmes tout de même investies dans la commune avec les nuances qu'on a pu apporter, d'origine sociale différente et aussi pour une partie issue de l'étranger, une dimension qu'on aura l'occasion d'évoquer probablement la semaine prochaine.
Alors beaucoup de femmes, je ne sais pas, mais en tout cas des femmes tout à fait énergiques et des femmes dont les itinéraires sont tout à fait fantastiques.